un jeune une solution avec la mission locale du Comtat Venaissin.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc à la mission locale du Comtat Venaissin et nous allons parler d'un sujet, le suivant, donc c'est sur les dangers liés à l'usage de stupéfiants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir autour des micros Ryan, Yanis, Elodie et Cassandra. Bonjour à tous les quatre. Et
bonjour.
Alors merci d'être avec nous, on va un petit peu commencer ce premier thème pour savoir un petit peu, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un stupéfiant? Et alors justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Cassandra? C'est quoi la définition d'un stupéfiant?
Alors un stupéfiant, c'est un produit qui est illicite et qui procure, on va dire, diverses sensations et qui est utilisé à des fins, par exemple, pour oublier les problèmes de la vie, etc.
Et alors, Elodie, est-ce que tu pourrais nous donner la définition exacte d'un stupéfiant, puisque je crois que tu as recherché la définition.
Oui, c'est ça. Alors, la définition d'un stupéfiant, c'est une drogue illicite et un psychotrope actif qui est interdit et qui peut avoir des conséquences négatives et problématiques sur autrui et qui, au fil du temps, va devenir une dépendance. Et pour la définition d'un psychotrope, pour que les gens savent un peu, c'est un produit ou une substance chimique qui va agir principalement sur l'état du système nerveux central et qui va modifier certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, et ça va apporter des modifications, comme par exemple la perception, les sensations, l'humeur ou encore la conscience ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales de l'individu.
Merci Elodie pour cette précision importante. Alors pour vous, justement, quel est le principal un petit peu moteur ou la raison qui peut pousser à consommer un stupéfiant? Donc est-ce que c'est par exemple l'ennui? Est-ce que ça peut être la pression sociale, la gestion du stress, l'accès facile? Est-ce que vous avez d'autres idées? Ryan.
Moi, j'ai mis plusieurs hypothèses. L'effet de groupe, mes amis en consomment, pourquoi j'en consommerais pas? Un pic de curiosité, avoir le sentiment d'appartenance auprès de la bande, donc en consommer. Un moment, on va mal, donc la dépression, pour se soulager, réatteindre le bonheur, etc., en prendre, passer à autre chose, être dans un autre monde, on va dire, qu'on plane, donc sous la substance de stupéfiant, ou simplement une curiosité de consommer, mais qui peut tourner à l'addiction, vu la substance des stupéfiants qui change certains points cérébraux, par exemple le point de la dopamine, qui va monter parce qu'on touche à une nouvelle substance, et ce manque de dopamine va devoir s'exercer en prenant plus de substances, du coup les stupéfiants.
Alors dans votre entourage, est-ce que vous, la consommation de drogue, elle est perçue comme un acte normal ou comme un danger, Cassandra?
Chez moi, je sais que c'est pas du tout quelque chose de normal. Depuis jeune, mes parents, surtout mon père, qui lui-même en a consommé, m'a toujours dit « Je veux pas du tout te voir avec quelque chose comme ça. Et si jamais je viendrai à te prendre, viens m'en parler, on en discutera. Je vais pas arriver à des extrêmes, mais n'en arrive pas là parce que ça peut causer tellement de dangers. Surtout que quand je le vois lui, maintenant comment il est, je vois bien qu'il faut absolument pas tomber là-dedans parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. »
Est-ce qu'il t'en a parlé très jeune, Cassandra?
Il m'en a parlé, je devais avoir 10 ans. Parce qu'il sait très bien que
quand tu allais presque rentrer au collège,
vers fin CM2, il m'a dit, vu que généralement au collège il y a un peu l'effet de bande, les gens qui grandissent, qui sont ados, qui sont en mode hyper curieux, et qu'ils ont un peu la notion de, ils veulent savoir ce que ça fait que prendre plus de risques, tout ça, il m'a parlé de vraiment beaucoup de choses à ce niveau là donc maintenant je sais que je vais pas du tout aller là-dedans.
Oui. Et est-ce que pour les autres, est-ce que dans votre entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent, vos parents?
Chez moi, c'est considéré comme un danger. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut pas toucher.
Est-ce que ça a été un sujet tabou ou est-ce qu'on en a parlé comme Cassandra?
Non, ça n'a pas été un sujet tabou, mais ils nous ont beaucoup fait de la prévention, que ce soit moi et puis moi-même, je connais des personnes qui sont addictes à ça. J'ai le frère de ma meilleure amie qui consomme du cannabis, ou même je vois certains jeunes des fois en bas de chez moi en consommer parce que j'habite dans un immeuble et des fois quand je rentre ça sent le cannabis quoi, et c'est pas agréable pour le nez, et puis même quand on sait les conséquences qu'il y a derrière, ça donne pas envie.
Justement, on va en parler un petit peu après de ces conséquences. Ryan, pour toi,
c'est un danger, c'est pas un sujet tabou auprès de ma famille, etc., mais c'est un danger. C'est, on sait que ça peut changer complètement une personne, briser des liens, même on peut emporter nos proches dedans, c'est vraiment un danger néfaste.
Yanis.
Auprès de ma famille, je sais que c'est un danger. Après, j'en ai jamais réellement parlé avec eux, mais
depuis petit, ils m'ont fait comprendre que c'était mal et qu'il fallait pas toucher à ça.
Fallait pas y toucher ou pas s'en approcher, ok. Maintenant, si vous deviez décrire la drogue justement la plus courante auprès des jeunes, alors vous aviez un petit peu répondu auprès de votre âge, aux jeunes de votre âge, lequel serait-ce ? Est-ce que c'est par exemple le tabac, le cannabis, d'autres drogues ? Laquelle déjà vous connaissez le mieux ?
Moi, je dirais le tabac parce que j'ai des parents qui fument beaucoup. Et du coup, c'est vrai que c'est la première chose que je connais.
La drogue la plus courante auprès
La drogue la plus courante auprès de ma famille, en tout cas.
Et quelle image elle a ?
Ben, sachant que j'ai un papa qui est quand même malade, c'est plutôt négatif comme impression. Parce qu'en fait, déjà, ça coûte cher. Financièrement, ça coûte cher parce que ben, au fur et à mesure que l'État augmente les prix, justement pour dire aux gens justement de plus en acheter parce qu'il y a des conséquences graves derrière, les gens ils achètent quand même. Puis même quand il y a un manque, quand il y a plus de cigarettes ou quoi, on le voit direct, c'est il y a les comportements, ils changent quoi. Donc, quand tu connais la personne avec qui a un caractère docile et tout, et que d'un coup elle devient violente et tout, tu
donc pour toi Elodie en premier c'est le tabac.
Ouais, le tabac, et après je dirais le cannabis parce que c'est la chose quand même qui revient beaucoup, et en général c'est ce que la plupart des gens consomment.
Yanis, voilà. Pour toi ?
Pour moi, c'est le cannabis.
Ouais, en premier du coup.
En premier.
Et est-ce que tu as une autre drogue que tu vois qui est courante après le cannabis ?
Protoxyde d'azote,
ok, très bien. Ryan, pour toi ?
La première drogue que je verrai en premier, c'est le tabac, qui est la plus commune, qu'on voit assez souvent, que ce soit dans la famille ou même dehors, à l'extérieur. En termes, si on devait classifier la drogue, si on parle de là de stupéfiant, le cannabis, qui est du coup la plus simple à se procurer, je dirais. Mais sinon, oui, le tabac, c'est celle que je vois le plus souvent, que du coup ma famille aussi procure. Moi, non, ça ne m'attire pas. Et ouais, c'est celle qu'on verra le plus commun, c'est le tabac.
Et alors justement, est-ce que le tabac est un stupéfiant ?
Moi, je le classifierais pas comme un stupéfiant. C'est pas autant néfaste que ce qu'on appellerait un stupéfiant. Le tabac va procurer, oui, les mêmes effets, mais beaucoup plus atténués. Il est en plus légal par la loi, alors qu'un stupéfiant, non. Il engendre des problèmes, oui, plus vers les organes que sur le cerveau. Il va pas toucher au cérébral, pas autant qu'un stupéfiant.
Et alors, je crois que Elodie a fait des petites recherches à ce niveau-là, et il me semble qu'il y a un classement, une liste réglementaire au niveau des stupéfiants.
Oui, c'est ça. Alors, on part de l'arrêté du 22 février 1990 qui fixe la liste des substances classées comme stupéfiants, et il a été modifié par l'arrêté du 14 octobre 2019. Et en gros, cette annexe, il comprend plus de 200 stupéfiants qui sont désignés comme de la drogue. Alors bien sûr, on a les plus connus comme le cannabis, la morphine, mais par exemple on a l'acétorphine, on a quoi d'autre,
est-ce que certains noms vous les connaissiez là?
Alors moi pas du tout, parce que franchement quand je les regarde, je me dis plus que c'est des noms ou des particules ou des molécules qu'on va retrouver dans certains médicaments qui sont plus donnés, que la plupart, surtout les professionnels de santé connaissent, comme infirmières, médecins, tout ça. Mais sinon, en tant qu'individu normal, en tant que citoyen...
On va poser
normal,
la question justement, Yanis, est-ce que toi, il y avait certaines molécules là, que tu connaissais aussi ?
Certaines, ouais, j'ai déjà entendu parler.
Ouais, certaines, donc déjà entendu parler. Je crois que tu as parlé du fentanyl, non, il me semble, à un moment donné, qui est aussi une molécule qui apparaît dans ce classement de cette liste réglementaire. Oui. Est-ce que toi, Cassandra, est-ce que c'est... toutes les molécules, tu les connaissais aussi ?
Alors, pas du tout, c'est vrai que...
Est-ce que tu savais qu'il y avait une liste réglementaire aussi ?
Je savais pas non plus qu'il existait une liste, alors franchement, c'est the découverte de la journée. Je savais pas du tout qu'il existait une liste, qu'il y avait des réglementations pour que telle chose devienne une drogue sur cette liste. J'ai vraiment tout découvert. Alors, il y avait quelques molécules que je connais vite fait parce que je regarde des émissions type douane sous haute surveillance. Donc, ils en parlent beaucoup de quelle drogue, quel pays, quel machin. Mais sinon, non, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Je pensais pas qu'il y en avait vraiment 200. C'est vraiment énorme quand on y pense.
Et vous, à titre individuel, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Quelles sont les conséquences qui vous inquiètent le plus ? Est-ce que c'est le risque sur la santé ou est-ce que c'est les risques légaux ? Donc, amende, casier judiciaire, prison ? Ou donc santé, je disais plutôt physique ou mentale, Yanis ?
Pour moi, c'est plus le risque mental et de la santé. Parce que, bon, on est en France et je pense pas qu'avec une petite barrette sur moi, je vais aller en prison ou prendre une grosse amende.
Eh ben justement, on va en parler dans quelques instants, Yanis, tu introduis le sujet. Ryan, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important ?
C'est le côté santé. Parce que du coup, le côté santé, c'est qu'on a pu voir, comme la définition l'indique, c'est qu'il y aura des changements chez la personne. On parle de mental... et aussi comportemental, on voit que le stupéfiant est dangereux. pour les proches ou même individuellement. C'est à double tranchant. Or que légalement, bon oui, légalement, c'est pas si grave que ça, on va dire.
Cassandra, pour toi, qu'est-ce qui est le qui t'inquiète le plus ? Est-ce que c'est la santé ?
Je pense que ce qui m'inquiète le plus, oui, effectivement, c'est la santé, parce que bah, même si ça touche, on va dire, individuellement la personne, il me semble que si la personne en consomme beaucoup, c'est un peu comme le tabac, il y a des choses qui pourraient s'inscrire sur les gènes, carrément, au niveau de l'ADN. Donc en fait, même si on arrête, même si on se sevre, il peut y avoir des risques, par exemple, si on vient à avoir un enfant... qu'on porte ou qu'on conçoit avec quelqu'un, et c'est quand même assez grave, parce que on va dire que s'il y a de plus en plus de problèmes là-dessus et que ça s'inscrit dans les gènes, bah, il va y avoir plein d'enfants qui vont naître avec des choses auxquelles ils ne devraient pas naître normalement, et eux-mêmes ils risquent de l'europhiler plus tard si eux-mêmes ont des enfants. Donc en fait c'est un peu comme une boucle.
Pour Elodie, toi je crois que tu voulais rajouter une autre conséquence qui t'inquiète un petit peu plus.
Oui, alors...
Social, notamment.
Ah oui, le social, oui, parce qu'il y a... En fait, quand on consomme, on va consommer, et en fait, on va aimer ça, tellement la sensation va être bonne, qu'on va en redemander, et en fait, on va, petit à petit, on va commencer à s'isoler, socialement, je veux dire. C'est-à-dire qu'on va, on va plus parler à la famille, on va se renfermer sur soi-même, on va toujours être là dans la demande encore et encore, et quand on va être en manque, le changement, comme on l'a dit précédemment, le comportement va totalement changer, on va être agressif, on va être désagréable, on va être insultant, même quand les personnes vont essayer de nous aider, tout ça. On va avoir une perte sociale très importante quand même.
Est-ce que vous êtes assez bien informé des conséquences pénales ? Justement, Yanis en parlait un petit peu. Il nous disait, ouais, bon, si on risque peut-être moins en France si on est contrôlé avec une barrette de shit que dans d'autres pays. Est-ce que vous savez faire la différence entre sain possession, petit trafic occasionnel ? Et nous expliquer un petit peu les différentes conséquences. Qui souhaite prendre la parole en premier ? Conséquences pénales. Si par exemple, tu es en possession, est-ce que tu sais ce que tu vas risquer ?
Bah, je crois que si je possède juste une simple barrette.
Oui, par exemple.
Du coup, on va me la retirer déjà. Et je pense que il se passe que j'ai un peu d'emprisonnement et une amende, contrairement à si je faisais du trafic ou autre, donc même vendre, hein, etc. En procédé, c'est moins grave que faire le trafic, faire l'achat directement pour le revendre.
Et est-ce que tu sais ce qui est considéré comme trafic ? À partir de quel moment on est considéré comme quelqu'un qui trafique, justement, qui revend ?
Avoir un point pour en acheter.
Est-ce que, par exemple, si tu as un ami à côté de toi et que tu lui en proposes, est-ce que c'est considéré comme du trafic ?
Bah, du coup, oui, c'est du trafic. On lui en procure. Ce qu'il va lui vendre, on est du coup son marchand. Même si, bon, il n'y a pas d'argent qui traîne entre eux, vu qu'on va le procurer, oui, à ce moment-là, ça devient du trafic.
Voilà, donc la loi considère l'usage de stupéfiants comme un délit. Hein, donc peu importe qu'on en ait ou pas, ou qu'on en donne ou pas, on est sur un délit. Et alors, est-ce qu'on connaît un petit peu les contraintes ? On va poser la question à Cassandra. Qu'est-ce qu'on risque justement si on est contrôlé et la sanction la plus courante pour la simple consommation de cannabis ou d'autres stupéfiants ?
Pour la simple consommation de cannabis, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on peut risquer de l'emprisonnement, des amendes.
Alors, quel type d'amende ?
Oui, de 200 euros.
200 euros, effectivement, si payé rapidement dans les 15 jours, elle est réduite à 150 euros. Et on peut aussi, je crois, Elodie, avoir une peine d'emprisonnement, c'est le maximum. Hein.
Oui, alors pour la simple détention, pour l'usage simple d'un stupéfiant, ça va jusqu'à un an d'emprisonnement et 3500 euros d'amende. Comme on l'a dit, une amende forfaitaire de 200 euros, si elle est payée dans les 15 jours, elle est réduite à 150 euros. Après aussi, on a un stage de sensibilisation sur le danger des stupéfiants, ou encore un suivi médical avec une injonction thérapeutique qui implique un suivi médical pour la personne.
Et on peut rajouter que le stage de sensibilisation, justement, s'il est ordonné par le procureur, qu'on est donc un primo délinquant, le coût est à la charge du contravenant. Donc ça veut dire qu'en plus, si on en a consommé, en plus on va payer ce stage.
Et concernant le trafic, donc tout ce qui est par rapport à la détention, à l'acquisition de stupéfiants ou quoi, la peine elle peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et si c'est plus aggravé, c'est-à-dire avec l'organisation d'un cartel ou ce genre de choses, ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, sachant que le code ne distingue pas le délit. Enfin, selon la nature de la drogue, par exemple, si c'est une cannabis, cocaïne ou encore de l'héroïne, les peines, elles sont prévues, c'est les mêmes. Elles ne vont pas être changées, c'est que vous vendiez...
Dans le cadre d'un stupéfiant, ouais, c'est donc ça. C'est pareil.
Que, si vous consommez de du cannabis pour juste un usage simple ou alors que vous en vendez pour un trafic, les peines, elles sont les mêmes, elles ne vont pas changer. Et cependant, selon la valeur et la nature du produit, elles peuvent être prises en compte par les juges dans l'appréciation de la gravité des faits. C'est-à-dire que selon la nature du produit, si c'est de la cocaïne ou de l'héroïne, et selon sa valeur, ben, les juges ils peuvent prendre en compte et peut-être réduire les peines d'emprisonnement.
Est-ce qu'on peut être inscrit au casier ? On va poser la question à Yanis. Est-ce qu'on peut avoir une inscription sur son casier ? Est-ce que ça peut compliquer aussi l'emploi par la suite ?
Oui.
Dans quel cas ? Par exemple,
dans le cas où on a un casier et qu'on veut travailler avec
dans
des enfants.
Dans quel genre d'emploi, par exemple, travailler avec des enfants ?
Ouais, ou bah, même dans la police, par exemple. Mm. Je crois que si t'as un casier, tu peux pas.
Effectivement, donc l'amende forfaitaire, elle n'est pas inscrite sur le casier judiciaire B2, mais d'autres condamnations ou peines alternatives peuvent l'être, donc ce qui peut impacter bien sûr l'accès à certaines professions. Et puis on imagine bien que si on est revendeur ou en tout cas si on fait du deal, ben là ça sera forcément inscrit donc sur le casier judiciaire. Tu nous disais 10 ans d'emprisonnement et une amende maximale de 7 millions d'euros,
c'est
un peu ça. Plus de 7 millions d'euros,
7 millions 350 000 euros, je crois, on paye.
Et alors,
semble.
En plus, si on trafique avec des mineurs, la peine maximale est c'est encore ça. Aggravée.
Oui, et je crois aussi que, enfin, la peine est différente selon si c'est un mineur ou un majeur qui fait du trafic. Je crois qu'elle est réduite de moitié pour les mineurs. Et de toute façon, comme les majeurs, ils vont faire des stages de sensibilisation.
Cassandra, moi je vais te poser une autre question. Est-ce que si on est guetteur, si on est nourrice, donc si on participe au trafic, même sans toucher la drogue, qu'est-ce qu'on risque ?
Si je dis pas de bêtises, normalement on risque exactement la même chose que quelqu'un qui en consomme. Parce qu'en fait, ils vont pas venir poser la question est-ce que vous, lui ou là, vous l'avez vu toucher à ça ? Ils vont pas chercher à comprendre, c'est tout le monde pareil de toute façon.
Donc si on surveille, si on stocke, si on transporte, même sans toucher à la drogue, on risque la même peine de prison, c'est-à-dire 10 ans.
C'est ça.
10 ans d'emprisonnement, effectivement, donc pour rôle de guetteur. Et alors, si on est un petit dealer,
pareil,
c'est la même chose.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je crois.
Oui, c'est pareil.
Si on dépanne un ami, est-ce que Yanis, si tu dépannes un ami, est-ce que tu es considéré comme un dealer ?
Oui.
Ouais, effectivement, donc on a un risque à la même chose, donc c'est 10 ans de prison et une amende très lourde. Et en plus, inscription sur le casier judiciaire, obligatoirement. Du moment qu'il y a du trafic, c'est obligatoirement inscrit sur le casier judiciaire. Et donc là, c'est toute sa vie, c'est pas possible de l'enlever. Une autre question qu'on va maintenant continuer dans le cadre de cette émission Smile Jeune avec vous. Donc je rappelle, toujours avec Ryan, Yanis, Elodie et Cassandra. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'impact des stupéfiants sur la santé mentale ?
Oui, bien entendu. Oui.
Yanis, à quel niveau ?
Au niveau psychologique.
Psychologique, oui. Quand tu entends psychologique, et c'est quoi ?
Enfin, psychiatrique, c'est tout ce qui est dans la tête, quoi.
Ouais, donc ça peut être quoi ? Faire une dépression, de
ouais,
l'anxiété ?
C'est possiblement dépression, anxiété ou déclenchement de certaines maladies comme la schizophrénie ou la bipolarité, tout ça.
Pour Ryan, est-ce que t'as autre chose à rajouter ? Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'impact justement des stupéfiants ?
Oui,
est-ce que tu l'as déjà vu toi aussi ?
J'ai pu être renseigné. J'ai vu ce que ça peut, l'impact que ça pouvait avoir. Oui, c'est sur le cerveau, c'est très néfaste. C'est surtout ce qui est cérébral et mental qui va être touché. Ça change complètement une personne.
Alors moi, je vais vous demander un petit peu aussi. On va dire qu'on a travaillé en amont de cette émission sur la question quelle est votre source d'information la plus fiable sur les drogues. Alors ça pouvait être les parents, les amis, l'école, les médecins, les réseaux sociaux. Et je voulais demander de classer par ordre du plus l'information la plus fiable à la moins fiable. Et en premier, vous m'avez mis les anciens consommateurs. Est-ce que Yanis, tu peux nous expliquer pourquoi ? Est-ce que ça a été ton choix de mettre les anciens consommateurs comme source d'information la plus fiable ?
Parce que un ancien consommateur aura plus de facilité à nous dire ce qu'il a ressenti lui et dans quel état il s'est mis pour avoir sa dose par exemple ou pas. Je trouve ça plus
représentatif
ouais, qu'un médecin qui nous dit les risques c'est ça.
Oui, parce que pour toi le médecin c'est plutôt de la théorie, mais il n'y a pas le concret de visuellement la personne de ce qu'elle a vécu.
C'est ça.
Ok. Pour Ryan, toi aussi les anciens consommateurs, c'était quelque chose aussi que tu aurais placé en premier?
Oui, parce que du coup ils ont le vécu, ils savent que ça fait, ils ont eu les effets ils ont du coup les changements, etc. Or qu'un médecin, lui, il aura juste les études et il aura pas ce qu'on va dire la mise en pratique. Qu'un influenceur, il aura mis en pratique, il serait sorti de là, donc il peut nous informer, nous aider même à nous en sortir, nous transmettre des informations pour, oui, si tu prends, t'auras telle conséquence, ça ici. Même si le médecin peut le faire, lui, il pourra pas autant détailler qu'un ancien consommateur.
Médecin, pharmacien, vous l'avez mis en deuxième, donc il vient quand même juste après les anciens consommateurs. Et alors là, par contre, en troisième, vous avez mis la campagne de sensibilisation. Est-ce que pour vous, ça a un impact? Je pose la question à Cassandra.
Pour moi, oui, la campagne de sensibilisation, ça pourrait avoir un impact, parce que, on va dire que il pourrait très bien y avoir des anciens consommateurs là-dedans, mais même s'il n'y en a pas, il pourrait prendre la thématique d'une autre façon, de sensibiliser les gens d'une autre manière, que ce soit par les jeux, que ce soit pas, c'est que ce soit indirectement en fait. Et ce serait, à mes yeux, mieux que ce soit indirectement que directement, parce que si pour eux c'est un sujet tabou, il n'y aura pas de blocage. Alors que si c'est indirectement, des fois ça permet de mieux retenir la chose pour ensuite en parler derrière.
Vous avez placé ensuite les médias. Tout ce qui est télévision et radio, vous regardez quand même un petit peu les médias. Pour vous, c'est important, c'est une source d'information assez fiable à ce niveau-là?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous entendez par médias?
Alors moi, je pense notamment, parce que beaucoup de personnes regardent la télé, surtout pour se renseigner, pour être au courant des actualités à la télévision, qui se passent dans notre société. Et c'est vrai que c'est plus... les campagnes de sensibilisation se font essentiellement... par les médias, par la télé, puisque le gouvernement, puisque c'est les gouvernements qui font les campagnes de sensibilisation, et les gens vont être plus réceptifs, j'ai l'impression, quand c'est diffusé par quelque chose qu'ils connaissent et dont ils regardent presque tous les jours les actualités.
Alors là où j'ai été étonné, c'est que vous m'avez mis les parents et la famille assez loin finalement comme source d'information la plus fiable. Pourquoi vous l'avez mis aussi loin? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer, Cassandra? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu aurais positionné aussi loin ta famille finalement?
La famille, en fait, ça dépend des gens. Ça dépend déjà les liens qu'on a avec, si on est proche avec eux, si on est loin, s'ils s'y connaissent, si c'est tabou pour eux ou non. En fait, ça pourrait dépendre de plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple... moi je sais que dans ma famille il y a eu des cas, donc je l'aurais placé plus haut, un peu comme ancien consommateur, peut-être pas en premier du coup, mais pour les personnes qui ont un lien pas forcément très proche avec la famille ou qui s'y connaissent juste pas du tout là-dedans, eux ils l'auraient placé beaucoup plus bas parce qu'ils se disent que ce sera pas la source qui va l'aider si jamais ils ont une connaissance ou eux-mêmes viennent en consommer.
Ryan, tu souhaites rajouter quelque chose à ce sujet?
Sur les parents, oui, c'est ça. C'est que ça dépend de la personne. C'est un sujet qui peut être tabou au sein de la famille. Ils peuvent pas être autant informés qu'un ancien consommateur, etc. Médecin, c'est quand même proche. Alors qu'un média, il y a des sources derrière. Ça a été informé, ça a été revérifié, etc. Que le parent, pas forcément, il connaît autant que les sources qui ont été dites avant.
Ensuite, vous m'avez placé l'école. Les réseaux sociaux, alors là les réseaux sociaux m'avaient dit attention, il faut quand même vérifier la source. Et puis enfin pour finir Wikipédia, parce que vous m'avez répondu qu'en fait tout le monde peut mettre ce que l'on souhaite sur Wikipédia. Même si c'est vérifié. Alors quel type de message pour vous, de format? Donc est-ce que c'est des témoignages, des données scientifiques, des témoignages de policiers, des messages de stars ou autre type de message aurait le plus d'impact sur vous ou vos amis? Je vais commencer avec Yanis. Quel serait le type de message toi qui aurait le plus d'impact pour toi?
Le message d'un ancien consommateur.
Sur quel type de format?
Peu importe, vidéo.
Ouais, vidéo, peu importe. Peu importe. Et toi, donc un ancien consommateur en format vidéo. Pour Cassandra, juste à tes côtés, quel type de message?
Moi, j'aurais dit, par exemple, peut-être faire un avant de à quoi ressemblait, on va dire, la vie de la personne avant qu'elle consomme, le après pour qu'on voit vraiment les dégâts, mais aussi, par exemple, un court-métrage imaginé par des anciens consommateurs ou non, même si c'est vrai que c'est eux qui savent plus que les gens qui n'en ont jamais consommé, et qui créent quelque chose qui impacte pour de vrai. Genre, vraiment, le format court-métrage, on va dire que ça parle à tout le monde. C'est court, c'est simple, c'est concis. Il y a le message derrière, même si c'est pas forcément direct. Et pour moi, le court-métrage, c'est vraiment le top.
Élodie.
Alors pour moi, ça serait plus par les données scientifiques, parce que quand même on a des chiffres, les gens qui consomment sont là, sont présents, Et enfin, ça montre à quel point il y a quand même une, qu'il faut faire quelque chose et qu'il y a une dépendance, que c'est grave en fait. Il y a quelque chose à faire, qu'il faut peut-être durcir plus les lois, il faut faire quelque chose pour ces gens-là qui ont besoin d'aide et qui malheureusement, s'ils n'ont que la drogue pour s'échapper du quotidien ou ce genre de choses, il faut quelque chose, il faut taper du poing.
Yanis, si tu avais une question ou un doute sur une consommation, sur la consommation, ou des questions tout court, hein, avant, sans forcément en consommer, vers qui tu irais en premier pour en parler sans crainte d'être jugé ? Est-ce que par exemple sur un inconnu ou avec tes parents, des professionnels de santé, des points écoute, des infirmiers ou infirmières, des addictologues ?
Moi, je pense que j'irai premièrement vers mes parents et que ensuite peut-être un inconnu, mais ça ne me traverserait pas l'idée d'aller voir un médecin ou un professionnel, personnellement.
Ok. Pour Cassandra ?
Moi, j'aurais tendance à aller en parler aux personnes qui sont au point écoute jeune, par exemple, parce qu'eux-mêmes ont reçu des témoignages de gens qui ont dû être touchés de qu'importe la façon, que ce soit directement ou indirectement. Et je me dis que eux, ils auront une approche, on va dire, mature du sujet.
Donc, tirer vers eux en priorité.
Donc, j'irai vers eux en priorité, effectivement.
Ryan.
Si je devais en parler, ce serait d'abord les parents et ensuite, je dirais les points jeunes avec du coup le parent en question, parce que du coup, ce serait un endroit plus avec quelqu'un qui connaît un peu le sujet, une présence avec qui on a passé notre vie. Ce serait bien du coup avec le parent pour apaiser tout, mettre au clair les choses.
Donc si j'ai bien compris, la source d'information la plus fiable pour vous, c'est pas les parents, mais en tout cas c'est ceux vers qui vous iriez en premier si vous aviez des questions à ce sujet.
Oui, c'est la personne la plus proche qu'on connaisse.
Cassandra, t'es d'accord avec ce qu'on vient de dire ?
Exactement.
Et pour finir, est-ce que Elodie souhaite rajouter quelque chose à ce sujet ?
Non, parce que je rejoins Ryan sur ce point-là, sur le fait que la personne vers qui je me tournerais si je consommais des stupéfiants, ça serait mes parents. Et puis après, peut-être me tourner vers le CMP, donc le Centre Médico-Psychologique, et en parler plus avec un psychologue pour...
On va en parler justement sur la question juste après, puisqu'il nous reste quelques questions avant de finir cette émission Smile Jones. Savez-vous s'il existe des lieux justement d'aide confidentielle et gratuite près de chez vous pour parler de ces conduites addictives? Est-ce que vous les connaissez? Alors je vais te laisser la parole du coup, Elodie, vu que tu nous parlais du CMP.
Oui, alors le CMP, c'est du coup, comme je disais précédemment, c'est le Centre Médico-Psychologique. Et ceux qui sont qui consomment des stupéfiants peuvent aller là-bas, puisqu'il y a des psychiatres et des psychologues qui sont à votre disposition et avec qui vous pouvez parler de votre consommation sans honte, sans peur d'être jugé, en toute liberté. Il y a aucun souci par rapport à ça.
Et est-ce que Cassandra, du coup, connaîtrait un autre lieu d'aide confidentielle sur Carpentras ou ses environs, par exemple ?
Par exemple, sur Carpentras, il y a le PAEJ Le Passage, qui est un centre anonyme qui permet de parler de divers problèmes, que ce soit les addictions ou autres. Et je crois qu'à Carpentras, nous n'avons pas quelque chose comme ça, mais il existe aussi le XAPA. Pour tout ce qui est accompagnement, prévention en addictologie, qu'importe si ce soit les stupéfiants ou autre type d'addiction.
Est-ce qu'on connaît une autre structure, un autre type de structure ?
Alors je sais que moi j'avais lu qu'il existait des communautés thérapeutiques.
On a aussi les centres jeunes consommateurs. C'est ça. Hein. Ce qu'on disait, donc centre jeune, pour résumer, donc on aurait Passage à Carpentras, CMP, XAPA, CJC, donc les centres jeunes consommateurs, et puis aussi des numéros lignes d'écoute.
Oui. Numéro vert, oui.
Oui, numéro vert.
Ils sont anonymes et 100% gratuits.
Et alors, est-ce que vous pensez que ces actions de prévention menées dans votre territoire sont visibles et efficaces ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que vous avez déjà vu des actions de prévention ? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, Yanis, pour toi ?
Pour moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc je sais pas si c'est efficace ou pas, mais si ça a été mis en place, c'est que ça doit aider des gens.
Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que tu aies un petit peu plus accès à cette information ?
En ouvrir un peu plus.
Oui, mais si on les ouvre et que tu connais pas l'information, comment toi tu pourrais connaître l'information ? Quand tu t'informes, tu regardes sur quoi en priorité ? Les réseaux sociaux ?
Ouais, sur Instagram par exemple.
Sur Instagram.
Faire des comptes avec le nom de la ville. Et
avoir l'information ou...
Ouais, c'est ça.
Ok. Pour Ryan, pour toi ? Cette information, est-ce que tu penses que les actions de prévention, elles sont importantes ? Est-ce qu'elles sont visibles, efficaces ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?
Elles ne sont pas totalement visibles parce que du coup, actuellement, ça continue. Et ça dépend aussi des personnes. Certaines personnes, quand elles ont leur but en tête, elles vont être têtues, ils ne vont pas chercher à comprendre. faudrait rendre ces informations plus présentes et visibles. Bah, par exemple, avec les médias, avec les sources de sensibilisation, en disant oui, dans tel lieu, maintenant, vous pouvez vous renseigner ici, ils peuvent vous aider. Les numéros verts qui peuvent aussi diriger vers là, les mettre au courant et qui peuvent transmettre l'info. Ou même les réseaux. Les réseaux, maintenant, notre génération, elle tourne beaucoup avec le téléphone et les réseaux. Même si l'information n'est pas fiable, on peut la rendre fiable. C'est possible, on a les moyens pour, etc.
On arrive déjà au terme donc, de cette émission spéciale Smart Jeunes sur les dangers liés à l'usage de stupéfiants. Dernière question que je vais vous poser. Quel serait selon vous le meilleur moyen d'aider un ami ou un proche hein, qui commence à avoir des problèmes d'addiction? Quelle serait la meilleure solution pour vous, Cassandra? Qu'est-ce que toi tu lui ferais en priorité?
Moi ce que je ferais en priorité c'est déjà éviter que la personne elle reste seule, parce que je me dis que si elle va rester seule, elle va penser à ses problèmes et pour oublier ses problèmes elle va prendre cette chose. Donc déjà ça c'est fausse bonne idée. Et ensuite, j'essaierai de me renseigner avec cette personne pour trouver des solutions, parce que bah on n'est pas tous informés là-dessus. Grâce à tout le travail qu'on a fait aujourd'hui, on en apprend, même si on pensait tout connaître. Et du coup, je ferai absolument toutes les démarches avec cette personne pour être sûr qu'elle atteigne son but, c'est-à-dire d'arrêter, même si rien n'est sûr à 100%. Mmh.
Pour Elodie, pour Yanis, pour Yann, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose suite à cette question?
Non, elle a tout dit, franchement, parce que nous, en tant qu'amis, à part le conseiller, l'accompagner, on ne peut pas faire grand-chose, étant donné qu'on n'est pas professionnel de santé. Et comme l'a dit Ryan précédemment, si la personne a été tue et qu'elle reste dans son truc de ben, « je veux pas d'aide, j'ai pas besoin, je suis bien comme je suis », malheureusement... on ne pourra pas y faire grand-chose, même si on lui prévient des conséquences, même si on lui répète, on lui dit, rien ne changera.
Donc en parler avec lui, le rediriger potentiellement vers des structures d'aide confidentielles et gratuites, essayer en tout cas de le raisonner, c'est ce que vous vouliez dire à travers ces mots. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci Ryan, Yanis, Elodie et Cassandra. Et puis quant à moi, je vais vous souhaiter une belle journée à l'écoute d'RTVFM et puis à bientôt pour une prochaine émission Smile Jeunes. Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
La mission locale du Comtat Venaissin accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur les champs de la formation, l'emploi, la citoyenneté, la mobilité, le logement et la santé.